La Sucrerie Podcast.
Ça t'est déjà arrivé un contrôle d'identité agréable ? Moi, jamais. Mais on va essayer de changer ça ensemble. On va tenter de partager une multitude de témoignages intimes et personnels sur ce que peut vouloir dire se sentir français au-delà d'une simple nationalité inscrite sur un passeport. Dans un pays où, quand tu n'as pas la gueule de l'emploi, on te demande sans cesse de montrer patte blanche, ce podcast s'impose comme un contre-contrôle d'identité. Par-delà les passeports, les titres de séjour, nos invités se libèrent des injonctions et des assignations de notre époque pour se réenraciner eux-mêmes. Date et lieu de naissance, taille et couleur des yeux, signes particuliers, tous se prêtent au jeu et se redéfinissent. Bienvenue dans Made in France, un podcast qui, comme son nom l'indique, parle de France et d'origine. Aujourd'hui, discussion avec Sofiane Pamar au domaine d'Ablon, dans le cabinet des curiosités précisément, entre son Bercy et sa tournée sud-américaine. Sofiane, bienvenue. Le podcast, c'est Made in France. Comme son nom l'indique, on va parler d'origine et on va parler de France. Sous couvert d'un espèce de contrôle d'identité. C'est toujours désagréable, les contrôles d'identité. Quand on se fait péter par les keufs, etc., c'est des trucs qui sont désagréables. Mais là, je vais te faire passer un contrôle d'identité agréable. Ça sera ta première expérience. Et c'est à toi de choisir comment tu as envie de le passer, ce contrôle d'identité. Est-ce que tu as envie que ça soit un genre de contrôle, je sais pas, de la CAF, des impôts, que ce soit un contrôle du commissaire, un contrôle d'un juge? C'est toi qui choisis. C'est toi et ta vibes.
Alors déjà, Medine, ravi de faire ce podcast avec toi. C'est d'avoir une grande histoire d'amitié qui nous lie. Et donc, jouer ce jeu de rôle-là avec toi, ça me fait bien kiffer. Et en plus, c'est typiquement le genre de sujet que j'aborde jamais, moi, dans mes interviews, parce que ce que je suis se raconte sans que j'aie à en parler. Et c'est ce que j'aime beaucoup grâce à mon piano. Mais avec toi, je veux bien jouer ce rôle-là et je te donne plutôt la casquette du juge parce que ça me fait vraiment réfléchir le sens de la justice. Qu'est-ce que la justice humaine? Qu'est-ce que la justice sociale? Qu'est-ce que la justice en termes de valeurs et en termes de carrière? En termes de est-ce qu'il y a une méritocratie? Est-ce que tu vois toutes ces choses-là qui sont des questions qu'on peut se poser dans le pays dans lequel on a grandi?
Je suis donc un juge chanceux. Je mets ma casquette de Perry Mason aujourd'hui pour t'interviewer, Sofiane Pamar. Et je vais commencer par la première question. Tu peux décliner ton identité, nom, prénom, comme tu as envie qu'on te connaisse, comme tu as envie de te présenter. Ça peut être différent de ce par quoi on te connaît.
Je suis très fier de mon prénom et de mon nom de famille. C'est ce que je porte haut et fort. Et j'ai pas de blase d'artiste, c'est vraiment ce qui est écrit sur ma carte d'identité. C'est la même chose que ce qu'on trouve sur les réseaux, que ce que j'ai fait connaître, Sofiane Pamar. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont racontées juste par mon prénom et par mon nom de famille. Et en termes de fonction, pour moi, j'occupe une fonction d'artiste. Sofiane Pamar, artiste.
Sofiane Pamar, c'est quoi ton rapport avec ton prénom? Tes parents t'ont déjà parlé de ça? T'as envie de parler de ça? Est-ce que tu veux qu'on s'en tienne à la représentation que les gens ont de Sofiane Pamar publiquement, ou est-ce que tu as d'autres choses à raconter, sachant que tu m'as conféré le rôle aujourd'hui de juge, que tu as là, qu'on est dans un... Est-ce qu'on peut resituer le lieu quand même?
Ouais, bien sûr, bien sûr.
On est où?
Donc là, on est dans un cabinet de curiosité, et assez incroyable, avec plein, dans la tradition de ce qui se faisait dans la mode des cabinets de curiosité, plus dans les années... dans les années 20, avec des objets qui sont ramenés de partout dans le monde, à un moment donné où on n'avait pas la chance et la possibilité d'aller chercher ces objets-là sur Internet. Il fallait vraiment qu'on ait un voyageur dans nos proches pour pouvoir nous ramener toutes ces choses très précieuses.
Pour ceux qui nous écoutent, autour de nous, il y a des paons empaillés, il y a des araignées taxidermées, je ne sais même pas comment on dit ça, il y a des
coquillages, papillons.
Des chapeaux livres, de safari.
Ouais, il y a vraiment de tout. Et en fait,
tu te sens bien ici?
Alors, je me sens très bien ici. Alors après, Il faut savoir que cette pièce fait partie d'un plus grand domaine dans lequel, en fait, donc du coup, qui fait de l'hospitalité de luxe. Et avec des thématiques vraiment particulières et dans l'esprit normand, des toits de chaume, beaucoup de rapport au bois et à l'artisanat, vraiment, pour le coup, en plus très français. Et on a tout un jeu de théâtre, un jeu de cinéma qui est sur. Ces décors, c'est on a recréé à taille réelle pour nos hôtes toute une expérience de logement vraiment spécial qui coupe du monde. Et quand on est ici, et c'est pour ça que j'aime beaucoup venir ici et je crée ici, j'ai l'impression que je suis dans une bulle, dans un film, dans un c'est à mi-chemin entre un Disney et un Indiana Jones.
On était sur ton prénom, Sofiane Pamar, et là, tu viens de décrire cette pièce. Tu nous as plongé dans, selon moi, ce qui représente le mieux Sofiane Pamar, c'est-à-dire quelque chose de très authentique, avec une histoire et du voyage. Tes albums Voyage portent le nom, il y a des titres qui portent le nom de chaque ville sur ton premier album. Ton deuxième album, c'est une lettre. À ton public, mais aussi aux auditeurs en général. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on se trouve dans une pièce qui synthétise tout l'esprit Sofiane Pamar. Mais pour en revenir à ton prénom, quel rapport t'as avec ce prénom et ce nom de famille? Quel héritage?
C'est la double culture. D'un côté, l'immigration marocaine, du côté de ma maman, qui est venue, mon grand-père est venu travailler dans les mines du nord de la France, au moment où, en fait, c'était... Les conditions de travail sont tellement dures que plus personne ne veut aller sous terre sacrifier sa vie. On va chercher des main-d'œuvre à l'étranger, des Italiens, des Polonais, des Marocains. Et c'est comme ça que mon grand-père, qui est enfant du travail, enfant de vraiment de l'extrême pauvreté, saisit sa chance pour pouvoir sacrifier sa vie et donner une meilleure opportunité à sa descendance.
Des petits-fils de mineurs.
Voilà, petits-fils de mineurs du côté de ma mère. Et... arrière-petit-fils de mineur aussi, du côté de mon père. Il y a juste une génération de décalage, mais les deux histoires viennent des mines. Et mon père, lui, c'est les mines, mais de famille française, du nord de la France aussi.
Donc la première inspiration que tu as de ton prénom, en vrai, c'est lié à cette double culture
voilà.
Et à ton héritage populaire, ton héritage, l'héritage de valeur de travail liée à ta famille.
C'est
ce que ça implique selon toi.
La famille Pamar, du côté de mon père, donc je porte le nom de mon père, et c'est une famille de mineurs du nord de la France. Et je porte le prénom qui est le choix du côté de ma mère, même si c'est aussi un choix évidemment qui est porté par mon père avec énormément de cœur. Ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai vraiment l'équilibre parfait entre mon prénom et mon nom. J'ai un prénom qui est l'héritage culturel du côté de ma mère, un nom de famille qui est l'héritage culturel du côté de mon père.
Et c'est très contrastant avec la vie que tu as aujourd'hui. Tout ce que tu me racontes, j'essaie de me projeter et de sortir un peu de cette conversation. Et moi, je te connais, beaucoup de personnes te connaissent. Mais aujourd'hui, le poids que tu fais porter à ce prénom, et tout en étant un pianiste de renommée internationale, aujourd'hui, il y a un contraste monstre et c'est une pression de l'histoire sur tes épaules, j'ai l'impression. Comment toi, tu le racontes? J'ai l'impression que tu le mesures, ça.
Bien sûr. Le premier contraste, c'est celui de mon métier. Avant même les accomplissements, c'est celui de... je vis du piano, là où mes ancêtres vivaient des mines. Donc mes mains sont sur les touches d'un piano, les leurs étaient au contact du charbon, au contact des pioches. Et donc c'est ça le plus grand contraste que je vis d'abord. Donc je suis issu d'une famille qui n'est pas une famille de musiciens. J'ai été au conservatoire, je me suis formé plus de 15 ans au conservatoire. J'ai passé toutes les échéances et toutes les compétitions qui sont liées au monde de la musique classique avant de voler de mes propres ailes et de proposer ma propre manière de voir le piano.
Tu frappes sur le piano comme tes ancêtres frappaient la pioche dans les mines de charbon.
Je peux pas faire mieux, c'est incroyable. Medine, ça c'est ton art.
Et ça c'est à ce moment-là qu'il faut mettre un extrait d'un des morceaux de Sofiane, peu importe lequel, c'est ton rôle, Tatiana. Je veux absolument qu'on entende la musique de Sofiane à ce moment-là. Revenons au contrôle d'identité. Date et lieu de naissance.
25 avril 1990 à Villeneuve-d'Ascq.
T'es un mec des années 90. C'était comment à Villeneuve-d'Ascq dans les années 2000? Parce que 90, t'étais encore enfant. Mais en 2000, c'était comment?
Alors, je me souviens quand même bien des années 90.
Ouais.
Parce que c'est à ce moment-là où le début de mon identité musicale s'est créé. D'un côté, j'allais au conservatoire. Je suis rentré au conservatoire à l'âge de 6 ans, donc en 96. Et de l'autre côté, donc porté par ma mère et par sa foi aux institutions publiques, je suis vraiment un enfant des écoles publiques en France. Et le conservatoire, si j'ai pu le faire, c'est par rapport au système très français d'accès aux écoles publiques par juste la sélection pour le conservatoire. Mais c'est pas du tout le niveau de revenu qui est comme sur d'autres systèmes à l'étranger.
Il y a une égalité sur
là-dessus.
La sélection de départ. Une culture élitiste.
Voilà, on n'est pas sur
la culture.
Une culture de l'argent à ce moment-là.
Okay.
On n'est pas sur une culture où, en fait, pour pouvoir suivre cet apprentissage...
Le système français permet d'accéder
à la connaissance. Okay. À partir du moment où, bien sûr que... l'inégalité, elle se joue sur d'autres choses. Moi, j'ai la chance que ma mère a investi tous ses espoirs et toute son ambition d'ascension sociale dans l'apprentissage du français, et elle est devenue professeure de lettres. Donc, elle connaît très 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 bien le fonctionnement des institutions publiques. Et elle a reproduit ça avec nous, avec les trois enfants, chacun avec une carrière différente, mais où là, moi, donc du coup, on s'est concentré sur le conservatoire en plus de l'école.
Donc, elle connaissait tous les rouages.
Exactement.
D'un système pour pouvoir le craquer, en fait.
C'est ça.
Et pour pouvoir aller au plus loin de ce système-là.
Exactement, c'est ça. Et c'est ce qu'elle a fait, elle pour elle. Elle avait la responsabilité de lire le courrier à la maison, mais mes grands-parents, donc ses parents à elle, ne lisent pas ou n'écrivent pas le français. Et donc c'est elle qui, en tant qu'aînée de la famille, elle a eu cette responsabilité-là. Et moi, je suis aîné de ma famille à moi, et ma première responsabilité, ça a été de décrypter la musique, de lire les partitions, et de comprendre ce langage-là, qui n'était pas encore celui de la famille, et qui est devenu, parce que mon frère et ma sœur sont eux aussi musiciens.
Revenons à l'environnement de Villeneuve-d'Ascq. Dans les années 90-2000. Tu es pianiste en devenir à ce moment-là. Tu habites quel genre de lotissement, de maison? T'es en immeuble, t'es en appart, t'es en maison?
Alors, on commence en appart, on passe en première petite maison et on passe en maison plus importante.
Et comment s'est perçu le fait que tu sois pianiste, je sais pas, à l'école ou dans ton groupe social à ce moment-là? Comment s'est perçu? T'es un génie? T'es un prodige, ou t'es quelqu'un de pompeux qui se prend pour quelle perception les autres ont de toi?
Ça a toujours été une perception très 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 positive, parce que en effet, moi, donc Elem, c'est là où on a grandi, c'est un quartier très très populaire, mais en même temps avec toute la richesse d'un quartier populaire. Et moi, ce que j'aime, c'est que j'ai toujours eu à plaire à des gens qui n'avaient pas les codes de la musique classique. Et ça, c'est la plus grande chance que j'ai eue de ma vie. Parce que du coup, j'ai jamais cherché à me construire en fonction d'un regard élitiste ou en fonction d'un regard savant. Et j'ai toujours eu à me construire en fonction d'un regard émotionnel. Et ça, c'est, je pense, la plus grande chance que j'ai eue de ma vie. Et je pense que c'est de là que j'ai pu tirer la force de composer des mélodies qui aujourd'hui touchent beaucoup de cœurs.
Ça veut dire quoi, regard émotionnel? Est-ce que c'est on te juge sur... ce que tu proposes, c'est le cœur qui te répond, Et ça, mais ça, ça n'est pas intellectualisé, c'est ça?
Voilà, c'est ça, exactement. Okay. C'est pas théorique. C'est pas, et donc, ça veut dire que ma manière de jouer du piano, depuis l'enfance, ça n'a, quand il y a de la technique, elle a toujours été au service de quelque chose qui crée une émotion. Donc, ça peut être créer une émotion d'être impressionné, ou ça peut être créer une émotion de waouh, quelle vitesse, ou encore ça peut être juste l'émotion de, d'être très, très touché par un morceau que je joue. Mais c'était ça et pas être impressionné par la capacité
la plus technique
la technique au sens de la technique, au sens de la réussite plus savante de l'exécution de certaines œuvres où on connaît toutes les
références, l'expertise de l'œil de celui qui connaît le piano, le maîtrise et porte un jugement sur celui qui le pratique,
c'est ça. Et autant ça donne un avantage au sein du conservatoire, parce qu'en fait avoir ce regard là autour de soi, ça fait que on comprend très bien que où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon, parce que on a les références à la maison, on est comparé à d'autres, et donc du coup on est tiré vers le haut dans ce circuit là mais autant on est un peu tiré vers le bas dans la comparaison à l'erreur. Moi je ne faisais pas d'erreur aux yeux de ma famille. Aux yeux de ma famille, je réussissais tout ce que je faisais, parce que j'étais déjà le meilleur dans ma discipline au sein de mon propre foyer. Et ça m'a donné un regard très 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 valorisant depuis l'enfance.
On parle de regard, de yeux de la famille depuis tout à l'heure, ça m'amène sur un autre point de ce contrôle d'identité. Il faut que tu me donnes ta taille, ta couleur des yeux.
Alors, couleur des yeux, c'est marron. Ma taille, c'est 1m72.
On a parlé du regard que les autres portaient sur toi. Toi, quel regard tu portes sur toi, adolescent par exemple? Quel regard tu as sur toi-même? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu es conscient de ce que tu veux ou vas devenir? Ou est-ce que tu es dans un... je sais pas, un lâcher prise d'adolescent et de ne pas forcément penser au lendemain, ou alors t'es vraiment dirigé?
Je suis confiant en ma capacité à accomplir de grandes choses depuis l'âge de 8 ans en fait, parce que j'avais cette conviction là. J'ai toujours été le roi du monde aux yeux de ma mère, mais tout en étant très 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 exigeante avec moi. Mais en même temps, je suis conscient qu'il me manque beaucoup d'armes que je vais devoir aller chercher et qui ne sont pas des ressources qui se trouvent là où j'ai grandi. Et je suis conscient aussi qu'il y a des anomalies dans ce à quoi j'aspire et la mentalité ambiante autour de moi, les fréquentations, les références, les accès, les possibilités, les carrières. Il y a quelque chose qui est assez plafonné en fait par rapport à ce que moi je vise.
Comment tu le perds, ce plafond ?
Et justement, je ne sais pas encore comment faire à ce moment-là. Et donc ça a été tout complexité de mon adolescence, et qui a duré en fait très longtemps, qui a duré au moins jusque mes 25-26 ans, parce que en fait j'ai essayé 1000 fois à percer ce plafond de verre, mais sans jamais réussir à le faire. J'excellais au conservatoire, j'arrive à passer toutes ces étapes, et donc j'étais heureux d'évoluer dans mon art, mais par contre je n'avançais pas du tout dans ma construction sociale, en dehors, dans la construction de mon métier, de mon avenir, de ma carrière, et ça je ne savais pas comment m'y prendre du tout.
Ça c'est lié à ton état d'esprit sur le moment, et peut-être des chapes de plomb de construction individuelle, ou c'est lié à un environnement un peu panier de crabe qui te ramène à ce que t'es, ce que tes parents ont été, ce que tes arrière-grands-parents ont été. Comment t'identifies ce plafond de verre?
Alors, le plafond de verre, je l'identifie surtout par rapport à... il y a un désir d'aller le plus loin possible, mais il y a un manque d'outils pour pouvoir y parvenir. Et donc, mon problème, c'est pas le regard qu'on porte de moi, parce que tout le monde avait envie que je réussisse déjà depuis toujours, mais c'est plus de comment on fait pour y accéder. Avec quel type de mentalité? En construisant quoi? En mettant... Comment on fait... rien qu'il y a une valeur fondamentale qui est de comment on vend son art, comment on monétise son art, et comment on crée de la valeur par rapport à ce qu'on est capable de faire en tant qu'artiste. Et ça, c'est une question fondamentale qui est très difficile, parce qu'à ce moment-là, on valorisait beaucoup surtout le surpassement de soi-même à la maison, et la prouesse de beaucoup travailler. Et donc, le travail, j'ai toujours été épaulé et encouragé à travailler énormément. Mais par contre, la création de valeur autour du travail, ça, c'était quelque chose qui était plus abstrait pour nous. Parce qu'on était de culture très populaire où on travaille beaucoup pour gagner peu. Et ça, il fallait que c'était quelque chose avec... J'étais en complet désaccord avec ça. Je trouvais ça injuste. Je voyais des gens qui ne méritaient pas d'aller plus loin que moi, qui avaient plus de chance que moi à ce moment-là. Et je me disais, mais comment ça se fait? Je peux pas laisser des gens que je ne respecte pas ou peu aller plus loin que moi. C'est pas possible. Avec tous les efforts qu'on a mis en commun, parce que c'est un effort familial. Il y a le sacrifice de mes ancêtres, le sacrifice de mon grand-père, et il y a le sacrifice de mes parents aussi, qui n'ont fait que orienter toute leur vie sur la construction des trois enfants. Et donc, ils ont toujours vécu à crédit, ils ont toujours vécu vers l'avenir, et ils n'ont jamais pris de vacances, ils étaient toujours en train de travailler plus, pour pouvoir nous offrir les meilleures études possibles et pour pouvoir nous donner des chances de passer au-dessus. Sauf qu'à un moment donné, je me rends compte que ça ne va pas suffire, et que ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de plus profond ancré en moi, qui est mon rapport à l'argent et mon rapport à comment je transforme mon art en quelque chose qui me rapporte, quelque chose à la hauteur de tous les efforts qu'on a fait collectivement. Et donc c'était ça le plus difficile. Et sauf que, étant donné mon environnement, en fait, j'avais que des gens qui fonctionnaient de la même manière. Travailler énormément pour gagner peu.
Et en fait, donc t'as changé d'environnement.
Et donc voilà, première chose, c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, je me rends compte de ça. Et donc je pars à la recherche, je pars à la quête de mon équipage, des compagnons de route avec lesquels j'allais réussir à percer ce plafond de verre. Et je me rends compte que je ne vais pas y arriver tout seul. Et donc ma première priorité est de trouver des gens qui vont me tirer vers le haut et qui vont me permettre de rendre possible ce qui était complètement impossible à ce moment-là.
Et tu penses que la perception de ces deux univers, du premier duquel tu t'es émancipé pour pouvoir accéder à vraiment à ce à quoi t'aspirais, et ce nouveau monde, entre guillemets, est-ce que tu penses qu'ils ont un nouveau regard sur toi aujourd'hui? Est-ce que c'est un regard différent? Est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés dans ta trajectoire, par exemple, aujourd'hui, dans ce nouveau monde, qui sont plus jugeants avec toi de par le fait que tu viens de cet environnement-là? Est-ce qu'ils sont davantage, ça pourrait donner l'impression de quelqu'un qui vient d'un milieu populaire et qui s'attribue les codes de quelque chose d'institutionnel. Le piano, c'est institutionnel, l'univers du classique, et tu viens avec ton attitude, avec ton vrai prénom, ton vrai nom de famille, ça porte quelque chose, ça raconte quelque chose, t'es accepté dans ce nouveau monde?
Alors, oui et non, je suis accepté en fait, le regard populaire sur ma carrière, il est très positif, parce qu'il est porteur d'espoir pour ces gens-là. Donc ces gens-là qui sont les gens avec lesquels j'ai grandi, qui sont...
T'es la fierté des nôtres.
Il y a ce côté-là, ce que je ressens très très fort. Mais en même temps, une fierté féroce, qui est beaucoup dans la défense aussi de ce que ça représente. Au-delà en fait de ce que je suis, en fait, c'est ce qui est représenté, au-delà de ça. Ça me touche beaucoup, et c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Si jamais ça changeait, ça m'affecterait. De l'autre côté, il y a une division entre la manière dont je m'approprie en fait cet art, qui est l'art du piano, et ce qu'il représente, les grandes institutions, et le fait de... Je me confronte à des gens qui sont très protectionnistes, qui sont très dans la... qui ne veulent pas que les choses changent, qui ne veulent pas que...
Espèce d'ancien monde qui n'accepte pas qu'il y a une forme de modernité qui vienne se mélanger à ça.
C'est ça, et que ce monde, ils ont l'impression qu'en fait, on va dévaluer le monde élitiste en le popularisant. Et moi, je suis en profond désaccord avec ça, parce que j'ai l'impression qu'en fait, les valeurs populaires tirent l'élite vers le haut. Parce qu'en fait, la rencontre des deux, c'est ça qui fait la grande richesse. Et donc moi, j'aime tout ce qui est de la culture de l'excellence et le fait d'être perfectionniste, le théâtre aussi qu'il y a autour de l'élitisme. Je trouve ça incroyable. Mais en fait, si tu mélanges ça avec des valeurs profondément populaires dans le regard des uns envers les autres, dans les valeurs populaires, on a beaucoup d'empathie, parce qu'on connaît un panel de sentiments, dont les sentiments difficiles, de peine, de galère, de douleur, etc., ce qui fait que ça nous rend très empathiques. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui manque parfois quand on s'enferme dans quelque chose de tellement élitiste que ça devient purement intellectuel et purement savant. On se détache des sentiments. Et la culture populaire peut amener des sentiments dans la culture élitiste. Par contre, la culture élitiste peut donner des moyens à la culture populaire, aux sentiments populaires. Et donc moi, je suis persuadé que l'alliance des deux apporte quelque chose de bien supérieur. Et donc c'est vrai que pour l'instant, jusqu'à présent, j'ai eu aucun problème du côté populaire. J'ai eu plus de problèmes du côté élitiste de certaines personnes, pas de tout le monde.
Quel genre de problème ?
Donc c'est les problèmes que je rencontre, c'est plus de je sens que c'est un sujet très sensible, parce qu'en fait ces gens-là peuvent vite se faire associer à des causes dont ils n'ont pas envie d'être associés, soit des causes politiques qui ne vont pas forcément les concerner, ou peu importe, mais on peut chercher à dénigrer ce que j'apporte, ce que je fais dans le piano, pour le maintenir du côté populaire et l'empêcher de venir du côté élitiste.
J'ai l'impression que ton histoire est symptomatique d'un mal beaucoup plus grand auquel la France fait face, tu sais, de ne pas vouloir accepter une partie de sa population parce qu'elle serait géographiquement située dans les quartiers ou issue d'une émigration. Et du coup, il y a comme un protectionnisme d'identité qui veut freiner cette espèce d'intégration de la population. Et qui tarde en fait à vraiment intégrer et utiliser toutes les synergies, les ressources de toutes les populations, et qui rentre dans un espèce d'affrontement inutile qui ne sert à personne. J'ai l'impression que c'est un peu symptomatique ce que toi tu vis, toute proportion gardée, dans la musique. C'est la petite histoire qui fait parler la grande histoire.
Alors peut-être, après c'est, de toute façon c'est pas du tout à moi de le dire, mais ce que j'aime c'est que à mon échelle on peut se poser ces questions-là dans la douceur et dans l'art, et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment beau par rapport à ce que j'apporte. Donc déjà, non seulement c'est de la musique, et donc c'est quelque chose qui se fait dans vraiment dans l'émotion. Donc dans mes concerts, j'aime beaucoup la diversité qu'on trouve sociale, dans les origines, dans les...
On l'a vu à Bercy.
Voilà.
Le public de Bercy était impressionnant de diversité en réalité. J'ai croisé des producteurs de cinéma, j'ai croisé des étudiants de la faculté, des gens de quartiers populaires que je connaissais, comme des gens que je n'ai jamais vus parce qu'ils viennent d'autres endroits sociaux. Et c'était impressionnant, le public à Bercy.
Même les âges aussi, les différentes tranches d'âge, c'est un truc qui me touche beaucoup aussi dans mon public. Et en fait, tout ça s'efface à partir du moment où tout le monde se réunit pour la même cause, pour la même... je parle de cause, mais en fait pour le même but, qui est de vivre de grandes émotions par rapport à un concert, c'est tout. Et donc je pense que en fait, ce que j'ai à apporter de plus grand, c'est de juste créer des situations. Si je crée des situations, le reste se fait assez naturellement. Et en plus de ça, j'ai la chance de faire un art qui n'a pas de parole. Et donc ça, c'est un truc que je pousse très très loin, au point de refuser de parler sur scène, pour vraiment maintenir au maximum, je sais pas jusqu'où je peux aller là-dedans, mais maintenir au maximum un art sans parole, pour que les pensées, elles se fassent en douceur, que chacun, que personne ne soit catégorisé, y compris des gens avec qui je serais en profond en désaccord, peu importe, parce que c'est pas ça mon rôle. Il y a d'autres rôles qui sont là pour ça, le tien par exemple, qui sont là pour justement mettre des mots, pointer du doigt certains malaises, et moi en fait justement je suis là pour on peut être du même avis, mais justement moi ce qui est intéressant c'est que on ne connaît pas mon avis. Et je pense que c'est ça ma force. Parce que c'est ce qui fait que, du coup, je peux créer des situations très, très englobantes.
Écoute, on va reprendre le fil de ce qui se termine, je te rassure. On est sur la fin. Moi, j'ai vraiment, dans mes références, quand on me demande quel Français aimerais-tu être, tu fais partie de mes références à moi. Je me projette à travers Sofiane Pamart, pour m'enraciner encore plus français. Vraiment, ça me raccorde à quelque chose qui est culturellement très ancré et très ouvert sur le monde en général, mais qui sait d'où il part. On a parlé de Villeneuve d'Ascq, on a parlé de la génération 90, on a parlé du fait que tu sois issu de l'immigration marocaine. C'est des profils comme le tien à travers lesquels je me sens davantage français. Maintenant, j'inverse le portrait robot, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On est dans un contrôle d'identité, je te le rappelle, Sofiane.
Ouais,
et comme tout contrôle d'identité, ça va se terminer par un portrait robot. J'aimerais que toi, tu me cites trois noms français de personnalités qui t'influencent, qui te donnent envie d'être français j'ai dit français, mais ça peut être trois noms en fait, qui représentent l'esprit à la française, comme tu le conçois. Un pour l'état d'esprit, le mindset. Un pour le discours, ce que ça raconte. Ça peut être quelqu'un qui ne parle pas.
Hein. Oui, bien sûr, ouais, ce que ça raconte.
Et une autre pour les valeurs. Les valeurs, le cœur, l'esprit de solidarité, peu importe. À toi de réfléchir, tu peux prendre le temps. Ça peut être très large.
Ouais, ok. Un pour l'état d'esprit, un pour le discours, un pour les valeurs. Alors pour le discours, j'aime beaucoup le discours véhiculé autour d'Omar Sy, que j'ai rencontré récemment, mais que je ne connais pas vraiment personnellement.
L'une des personnalités préférées des Français à plusieurs reprises.
Et voilà, et ça, tu vois, ce titre de personnalité préférée des Français, je trouve que c'est un titre que j'ai toujours trouvé noble, en fait. Moi, je me sens profondément français. Ma mère, elle m'a vraiment élevé dans la fierté de l'identité française. Vraiment. Parce que c'est comme ça qu'elle s'est construite. Et c'est dans ce rapport à... tu vois, elle est toujours à mettre au-dessus de tout le reste l'école de la République. Et c'est des valeurs qu'elle a très, très, très au fond d'elle-même, que partage mon père. Et donc, ces deux...
qui sont enseignants.
Et alors, c'est mon père dirige une école pour apprendre le français à des étrangers, et ma mère est professeure de lettres. Et du coup, ils ont tous les deux une fonction très très spéciale
ils
dans
ont un
le rapport à la langue française.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ils ont un rapport direct avec la langue française.
C'est
et
ça.
Du coup, ça doit couler dans ton
ouais,
ADN.
C'est clair. Dans mon ADN et dans celui de mon frère et de ma sœur. C'est très très profond ce qu'on a là-dedans. Donc en fait, être très très fier de son identité, de sa nationalité, ça veut pas dire ne pas avoir envie de la tirer vers le haut et ne pas avoir envie d'avoir un regard critique sur certaines choses pour pouvoir les améliorer. Mais le fait d'être critique, c'est pour améliorer. Ça faut jamais qu'on oublie que dans le fond il y a une fierté.
Et donc Omar Sy validé.
Donc Omar Sy validé. Par rapport à
le discours.
Au discours, au fait aussi que les Français, le français d'aujourd'hui a tellement de couleurs, a tellement d'origines. Et ben ça, je trouve que c'est vraiment profond. Tu vois, quand enfant, Jamel Debbouze m'a beaucoup inspiré. Omar Sy m'inspire beaucoup. Forcément, je me suis identifié en étant enfant issu d'une double culture à des gens qui étaient français avec des origines. Parce que j'avais l'impression que ça crée un écho en moi. Parce qu'en fait, il venait rajouter un mélange d'influences et d'idées et de cultures dans la nationalité française. Et je trouve ça trop intelligent comme manière de croître au sein d'un pays que d'aller chercher ce qu'il y a de bon un peu partout. Donc ça, c'est en termes de discours.
Pour le mindset, pour l'état d'esprit.
Pour le mindset, j'adore le mindset d'Oussama Hamar. Parce qu'en fait, c'est un mindset qui est très provocateur. Parfois, mais qui est très tiré vers la construction, le fait de... qui est très critique avec la toxicité, par exemple, de certains ancrages dans la manière de créer des entreprises, par exemple, en France. Mais justement...
Dans l'entrepreneuriat.
Dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et cet état d'esprit, je trouve qu'en fait, il injecte à l'état d'esprit français des doses d'état d'esprit de grands voyageurs, de personnes qui se sont confrontées à plein de situations internationales dans le milieu de l'entreprise, mais pas que aussi. Et donc ça, moi je trouve que son état d'esprit, au-delà en fait des faits, peu importe les faits qu'il raconte, mais l'état d'esprit qu'il y a derrière, c'est ça que je trouve très très puissant chez Oussama Hamar. C'est que l'important, c'est pas les données, c'est pas les faits, c'est la manière de construire le raisonnement. Ça, je trouve ça très très profond chez lui. Et donc ça, c'est pour l'état d'esprit. Et pour les valeurs, en fait, c'est les valeurs de ma mère. C'est pour moi, c'est la française qui...
On peut la nommer ?
Oui, Sadia Pamar. Donc, ma mère s'appelle Sadia. Mais c'est la française que je trouve la plus belle dans ses valeurs. Parce que en fait, elle a des... depuis petit, elle considère tout le monde avec tellement de respect et d'amour, peu importe leur fonction, peu importe leur ADN, peu importe leur histoire. Et c'est quelqu'un qui a accompagné énormément de gens par la langue française dans leur construction personnelle. Et c'est quelque chose, je pense, qu'elle a réussi à me transmettre. En tout cas, j'essaie d'être à la hauteur de ces valeurs-là, qui sont des valeurs profondément humaines. tout en se revendiquant haut et fort française. Et donc, c'est ça que je trouve assez touchant.
Portrait robot validé. Oussama Amar pour le mindset. Omar Sy pour le discours. Et Sadia Pamar pour le cœur, pour les valeurs. Portrait robot validé. Maintenant qu'on vient de passer en revue pas mal d'aspects de ton identité, est-ce que tu serais tenté de te redéfinir ou tu signes le procès verbal et cette déclaration?
Je signe cette déclaration, chaque mot que j'ai mentionné dans cette déclaration.
On revient sur rien.
On revient sur rien du tout.
C'était Sofiane Pamar, en direct du cabinet
des curiosités du domaine d'Ablon.
Du domaine d'Ablon. C'était Medine, terminé.
Made in France est un podcast produit par La Sucrerie, sur une idée originale de Laura Larman et Medine, réalisé par Laura Larman et Tatiana Benamou avec l'aide de Martin Bachol, et le mix est de Dimitri Benamou.